Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Capucine Trochet est une aventurière. Aventurière de la vie d'abord, qui lutte avec courage contre une maladie rare qui ronge ses tissus et altère sa mobilité. Aventurière des océans surtout, qui a traversé l'Atlantique à bord d'une coque de noix. Taratari, un petit bateau de pêche originaire du Bangladesh, transformé malgré lui en voilier au long cours. La quête de Capucine, rencontrer le cœur du monde au milieu de la mer, dans cette vie singulière aux mille saveurs, malgré les épreuves. Taratari, c'est un peu sa maison sur son dos, comme pour l'escargot. Capucine Trochet parle de son esquif avec tendresse. « Ce sont mes ailes, ma liberté. » Elle est aujourd'hui mon invitée dans Vie d'aventure. Bonjour Capucine.
Bonjour Denis.
Ta vie est une épreuve que tu traverses avec un optimisme étonnant, contagieux. Il y a un peu plus de 10 ans, ton univers s'écroule. Celui qui te destinait à devenir marin de compétition. Raconte-nous ce qui se passe au moment où tu comprends que tu es atteinte, malheureusement, d'une maladie rare qui va petit à petit toucher tous tes tissus.
Alors, j'avais pour le projet de me lancer dans la course large et j'ai franchi ce pas en quittant Paris et ma vie dans la communication pour relever ce défi. Et puis, à force d'entraînement, je me blesse et je me blesse encore. Et très vite, ça s'aggrave et les médecins me disent qu'il faut que je renonce et que voilà, c'est terminé avant même de commencer, ce qui déjà était assez dur. Et puis, je me suis dit qu'il était possible que ce projet de vivre quelque chose de fort en mer était possible malgré tout. Que mon objectif n'était pas forcément de devenir la championne de course large, mais d'aller vivre quelque chose de fort en mer. Alors j'ai repensé mon projet.
Avant de parler justement de ce nouveau projet, d'abord ces jours, ces semaines passées en centre de rééducation en Bretagne, au milieu de gens qui sont plus atteints que toi, je pense notamment aux tétraplégiques, et plus particulièrement à Christophe, qui reste, durant tout ton projet, un exemple de vie.
Après plusieurs opérations, j'ai passé un long séjour au centre de rééducation de Kerpap, dans le Morbihan, en Bretagne. Et c'est là, en fait, où je pensais être sur pied au bout d'un mois, que les choses se dégradent et vite, et touchent. En fait, toutes mes articulations commencent à coincer, à se débloquer, à se luxer, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. À ce moment-là, je suis dans un flou médical total. Et ces semaines, ces mois à Kerpap, je vais faire la rencontre de mes voisins de chambre, qui sont quasiment tous tétraplégiques, et notamment de Christophe, donc. Et c'est vrai que là, on partage des moments forts et on tisse des amitiés sans superflu et qui restent. Ce sont eux les vrais aventuriers, les vrais courageux, parce qu'ils ne peuvent rien faire et ils ont une force. Et pour moi, ils restent, Christophe et les autres, restent pour moi des exemples de courage et de force pour la vie de tous les jours.
Capucine, je me permets de te poser une question sur ta vie privée, parce qu'à ce moment-là, tout se bouscule dans ta tête, cette perspective d'être un marin de compétition s'envole, et tu mets aussi un terme à une relation amoureuse avec Boris. C'était indispensable de couper tous les ponts, finalement, pour te relancer dans une nouvelle aventure de vie, de nouvelles perspectives.
Je crois la nécessité de mettre toute mon énergie dans ma reconstruction. Je sais pas si c'est nécessaire, mais oui, j'ai l'impression que j'avais besoin d'être seule dans mes rêves et dans mes soucis. En tout cas, la maladie peut créer ça, une sorte d'isolement assez particulier.
Alors, tu vas pas rester, Capucine, isolée très longtemps parce que on se retrouve au Salon Nautique en 2010. Et là, tu vas faire la connaissance de l'un des amours de ta vie, ce petit bateau de pêche en provenance du Bangladesh qui est exposé dans ce Salon Nautique à Paris, appelé Taratari, composé en fibres de jute notamment. Il n'a rien d'un bateau de compétition, il ne ressemble en rien au bateau que tu espérais skipper sur la Mini Transat, mais il y a tout de suite quelque chose qui se passe avec ce bateau et avec son propriétaire Corentin.
Oui, je peux pas expliquer, c'est vraiment les choses de la vie, les belles surprises. Je viens de voir un chirurgien qui m'annonce une énième opération et je comprends donc que mes qualifications sont impossibles pour la Mini Transat. Donc je suis un peu dépitée et là je rencontre Taratari. Et voilà, on parle avec Corentin et en fait en voyant ce petit bateau tout abîmé qui est tout lent, j'ai l'impression de voilà que la solution est devant moi et Corentin lui qui doit partir au Bangladesh quelques jours plus tard ne sait pas quoi faire de son bateau et je lui dis bah écoute, moi je vais faire ma Mini Transat avec Taratari. On en a ri et en fait on était très très sérieux et c'est bien ce qui s'est passé, je suis partie naviguer à bord de ce petit bateau quelques mois plus tard.
Tu peux nous le décrire ? Ce Taratari, combien mesure-t-il? Comment est-il constitué? Parce que, encore une fois, c'est un bateau très artisanal.
Alors, c'est le plus joli petit bateau de l'univers. Il est tout petit, il a les dimensions parfaites d'une cabane flottante. Il est bas sur l'eau. Je dirais qu'à l'intérieur, il y a la superficie d'une cabine téléphonique qu'on aurait allongée. Il est fait de jute et de résine polyester et il est fait de matériaux de récup, c'est-à-dire que le mât, c'est de la tuyauterie de cargo, le hublot, c'est aussi un vieux hublot récupéré sur les chantiers de démolition des cargos qui se trouvent à Chittagong, au Bangladesh. Et ce petit bateau Taratari est né dans le chantier naval de Yves Mar, un autre aventurier, entrepreneur qui est arrivé au Bangladesh en péniche pour en faire un hôpital flottant et dont le chantier s'appelle Taratari. Et donc voilà, ce petit bateau est tout petit, il a 20 cm de franc-bord, donc qui est au-dessus de l'eau, et il fait 6,50 m à la flottaison, 9 m hors tout, parce qu'il a la forme, la ligne de la coque a la forme d'un sourire, et voilà, le mât fait un peu moins de 7 mètres, et il y a des petites voiles, enfin, tout est petit, il fait pas 2 mètres de large, ça ressemble à un canoë pour certains.
C'est clair, et quand on le voit, je vous invite à aller sur Internet découvrir Taratari ou à le voir sur la couverture de ce livre que tu sors ces jours-ci, hein, Taratari, mes ailes, ma liberté, pour comprendre qu'il est fait pour tout, sauf dans notre imaginaire de terrien pour traverser l'Atlantique. Et pourtant, en bengali, Taratari, ça veut dire vite. Mais quand on le regarde, oui, on se dit que ce bateau, il peut tout faire, sauf aller vite.
Exactement. C'est l'humour, parce que c'est un petit bateau très drôle aussi, je pense.
Forcément, on le disait en préambule, tu as des problèmes physiques, musculaires, articulaires. Tu as du mal à rester en position debout longtemps. Comment tu arrives à vivre sur ce bateau minuscule, à te déplacer en toute sécurité et puis à être capable de le barrer, à être capable de gérer les voiles? Parce qu'encore une fois, on va le comprendre, sur ta traversée entre la Méditerranée et la Martinique, il y a certains moments où tu vas te retrouver seul à bord. Comment fais-tu? Décris-nous un petit peu quel est ton quotidien à bord de ce Taratari.
Alors, c'est vrai que je passe quasiment tout mon temps à la barre et je suis assise pour ça, sur le rebord. Et je suis quasiment jamais debout, ce qui me va bien. En fait, il faut savoir que je souffre du syndrome des lèvres dans l'os, qui est un type hypermobile. Donc, je me luxe et je me déboîte les articulations hyper souvent, ce qui fait que ça me va bien de pas faire beaucoup de gestes, de pas beaucoup bouger. Et par exemple, sur ce bateau, entre le Cap-Vert et la Martinique, sur 25 jours de mer, je n'ai pas été debout une minute. Après, c'est ma coquille, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ma coquille. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup bouger. Et puis, quand je suis partie sur le bateau, je venais de passer 7 mois immobile dans un lit, Donc, je pense que finalement, ça a été une grande liberté. J'ai l'impression d'avoir pu bouger énormément grâce à lui, comme si c'était une continuité de mon corps, en fait. C'est compliqué à expliquer.
C'était pas évident pour toi d'avoir confiance en ce bateau, parce qu'au chantier naval où tu étais en train de le remettre parfaitement en état avant de commencer cette transatlantique, les autres autour de toi parlent de Taratari comme d'une poubelle.
J'ai tout retapé, j'ai commencé le chantier de rénovation en fauteuil roulant et j'ai commencé par des petites choses peut-être inutiles d'un premier abord qui comme frotter la coque avec un petit chiffon. Mais c'était des petits gestes qui finalement moi m'ont donné confiance, le moment où on s'est apprivoisé ce petit bateau et moi. Le retaper complètement m'a permis de bien le connaître et donc d'anticiper d'éventuels problèmes pour la suite. Et puis moi, en fait, je me suis retapée moi-même en le retapant. C'était notre, ce que j'aime dire, notre thérapie de groupe. J'ai même scié mes béquilles pour en faire les barres de flèches, ces petites barres qui tiennent le mât debout. c'est sûr que personne n'y croyait, parce qu'entre moi qui marchais pas et ce bateau qui ressemblait plus à grand-chose, je me disais que pourquoi on me laissait pas essayer. Enfin, c'était très dur de supporter ça. Personne connaissait mon histoire, est-ce que je venais d'endurer, est-ce que j'endurais comme douleur. Donc j'avais envie de. Bah, je répondais par des silences et puis j'avais envie de voilà d'essayer quand même. Et puis dans le petit milieu de la course au large, petit à petit, il y a des marins qui préparaient le Vendée Globe, qui passaient. Je pense à mon ami Tanguy de la Motte ou Sidney Gavinet qui lui était sur son gros bateau. Eh bien, ils me donnaient des petits éléments, des bouts, des poulies et en fait des petits rien du tout. Pour moi, c'était ça m'a permis de remettre un bateau à flot. Donc voilà, il y avait un peu de regard sur mon histoire.
Tanguy de la Motte qui a dû être très sensible à ton histoire et à tes problèmes de santé, lui qui a tellement longtemps soutenu cette belle fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'ailleurs, pour corroborer tes propos, je voudrais te citer quand tu dis « Quand je m'occupe de lui, quand je m'occupe de mon bateau, je m'occupe aussi de moi ». On comprend très bien qu'il y a aussi une donnée très psychologique dans tout ça. Alors tu vas partir, tu vas quitter la Ciotat, tu vas d'abord descendre le long des côtes françaises puis le long des côtes espagnoles avant de te retrouver après le détroit de Gibraltar dans l'Atlantique. Mais avant le départ, tu écris une lettre à tes parents en cas de problème. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette lettre ?
Je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était d'anticiper à peu près toutes les données. Par exemple, mon coach, Tanguy Le Glatin, quand je lui ai parlé du projet, évidemment, il a trouvé ça un peu fou, mais il était très pragmatique. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, réfléchi aux situations les plus périlleuses pour voir ce qu'il fallait faire. Et c'est-à-dire si le bateau se retourne, ou comment réagir, quelle manœuvre effectuer, si je me blesse à la tête ou des choses comme ça. Et pour moi, préparer cette lettre à mes parents qui ne sont pas du tout marins, c'était un peu les aider, anticiper. C'était pas annoncer le problème, c'était juste dire voilà s'il y a un problème, que se passe-t-il. Et j'avais expliqué ce qui se passe quand en mer un marin déclenche sa balise de détresse, ce que ça veut dire. Et j'avais aussi donné des Enfin, je m'étais arrangée avec deux amis marins, Sidney et un autre Bertrand Delaine, pour qu'ils puissent être en contact aussi avec mes parents, pour les rassurer. Et je pense que c'est nécessaire dans l'aventure, dans le projet, de viser large dans ce qu'on prépare. Et c'est aussi pour, ça peut mal se passer. Quand on est marin, on sait qu'il y a aussi une chance pour que les choses se passent mal. Enfin, une chance, une possibilité, disons. Et voilà, et l'anticiper n'est pas l'annoncer.
Une autre déclaration de ta maman à Barcelone où tu avais fait escale et qui te dit « Je te souhaite d'être heureuse, on se revoit un jour ?» Ce qui montrait aussi une part de son inquiétude. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire en ton projet, en ta capacité à gérer tout ça sur une traversée aussi longue. Et à ces gens-là, tu leur réponds par une phrase de René Char que je trouve magnifique. « Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque. À te regarder, ceux qui doutent s'habitueront. Mmh. » Tu en as fait ta maxime ?
Un petit peu. Je voyais pas quelle réponse. Je trouvais les remarques tellement agressives que je me dis, mais les gens sont d'un jugement violent quand on me dit c'est du suicide. Enfin, c'est des mots forts et je trouvais ça très dur. Donc, je me suis dit que quelqu'un qui n'est pas convaincu ou qui a peur ne pourra pas être rassuré par mes paroles. Donc, il faudra juste que j'agisse pour qu'on comprenne peut-être ma démarche ou qu'on la comprenne pas, mais en tout cas qu'on l'accepte. Enfin, pour moi, le contrat était simple. Si je me fais peur ou si j'ai pas de plaisir, ben, je m'arrêterai. C'était facile. Après, c'est vrai que ce petit bateau Taratari avance lentement. Je n'ai pas de moteur. Je pense que c'était pas tout à fait facile de comprendre l'intérêt.
C'était pas très raisonnable non plus, Capucine.
Mais pour moi, c'était peut-être le seul bateau qui me permettait d'aller vivre en mer. Et finalement, ce bateau, Corentin navigue avec, mais ensuite, il a tenu déjà un demi-tour de monde facilement.
Au départ, tu quittes La Ciotat avec Corentin, hein, son propriétaire, celui peut-être qu'il connaît le mieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est après Barcelone, en Espagne. Parce que là, tu te retrouves en solitaire, seul avec ton harmonica.
C'est ça. Oui, mon frère habite à Barcelone et m'avait offert un de ses harmonicas. Et c'était un moment que j'ai vraiment attendu. Et c'est vrai qu'on parle de la traversée de l'Atlantique, etc. Mais moi, tous ces moments en Méditerranée, en plein hiver, parce que je suis partie, départ de La Ciotat s'est fait un 17 novembre, donc c'était pas du tout le moment sur le papier, mais moi c'était mon moment, c'était viscéral parce que j'étais sortie de l'hôpital après 3 ans compliqués et j'ai 3 mois de chantier, donc là il fallait y aller. Et c'est vrai que je me suis retrouvée après Barcelone seule et bien, et je pourrais pas décrire ce bien-être en mer, mais il me remplit de joie et de vie, et vraiment tout ce que je ne pouvais pas faire à cause de mon corps, je pouvais le vivre grâce à ce bateau qui devenait mon ami, ma famille, pour être un peu lyrique, mon âme sœur. Enfin, c'était vraiment mon petit bateau. C'était vraiment beau.
On sent, quand tu en parles, toute l'émotion qui te gagne. Alors, quand on est seul sur un bateau comme celui-ci, qui est donc vétuste, même si tu l'as réparé au mieux, l'eau pénètre à bord, il faut que tu écopes très régulièrement. Quand on n'est pas totalement maître de ses mouvements, quand on est un peu handicapé, il faut se dire les choses. Est-ce qu'on a peur de tomber à l'eau? Est-ce qu'on a peur, à un moment, en pleine mer, de ne pas avoir les ressources physiques nécessaires et indispensables pour poursuivre sa route?
Alors, oui, c'est sûr. On peut être dans le doute. Je me suis toujours attachée sur le bateau. Ça, c'était une des règles de base. À l'intérieur comme à l'extérieur, je suis toujours attachée au bateau. Après, on rentre dans une manière de vivre un peu différente en mer, parce que par exemple en Méditerranée, c'est très pénible. Il faut dormir par sieste de 10 minutes. Il faut 15 à 20 minutes pour qu'un petit point sur l'horizon se transforme en un gros cargo sur notre position. Donc, il faut rester très vigilant et faire des micro-siestes. Et ça, c'est pas juste une fois ou une nuit, c'est tout le temps. Moi, je connais tous les sons du bateau, une osmose assez particulière qui fait qu'on sait quand il y a un problème, on arrive à entendre, même s'il y a un bruit de moteur qui est proche. Après, il peut arriver qu'il y a un ras-le-bol. Dans ce cas-là, on peut viser vers le large et dormir un peu pour se reposer. Ou alors, on peut, quand il y a un cap compliqué, on peut juste faire demi-tour et aller se mettre à l'abri dans un port. Et ça, c'est... Pour moi, l'important, c'est que l'équipage et le bateau soient en forme. Donc, après, il n'y a pas de mal à faire demi-tour.
Il se passe de nombreuses semaines avec des échecs dans le sud de l'Espagne, un passage de Gibraltar qui est difficile. Et puis, il y a le départ de Gibraltar le 9 mai en direction de l'Atlantique. Avec un gros temps dans le détroit. Et là, tu n'es plus seul. Tu es avec un de tes amis marins, navigateurs, puisque cette transat, vous allez la faire en double avec Maxime. C'était important aussi pour toi d'avoir un complice, un compagnon, quelqu'un sur qui potentiellement aussi te reposer.
En fait, la traversée du détroit de Gibraltar, j'avais envie qu'on la traverse en double, cette partie, parce que sans moteur, il me fallait forcément du vent fort passer le rail des cargos, qui sont très nombreux. Et avoir du vent fort, ça pouvait sous-entendre avoir le vent contre le courant et donc lever une mer assez désagréable. Je pense que c'était assez prudent de partir à deux pour pouvoir gérer à la barre et régler les voiles en même temps. On a eu une traversée très rapide et en même temps très violente. On a descendu encore à l'Atlantique vers les îles Canaries, où arrivé fin mai, mais il n'est plus question de traverser l'Atlantique à cause de la saison cyclonique. Et à ce moment-là, je me suis pas dit qu'on allait traverser l'Atlantique en double. J'avais des petits pilotes automatiques que j'arrivais à alimenter grâce à un panneau solaire. Malheureusement, le bateau n'a pas de quille et roule beaucoup, donc là, ça fait beaucoup d'efforts pour ce petit bras de pilote qui a du mal à supporter. Mais oui, être deux, c'était assez important pour ça, pour pouvoir tenir et se reposer. Et puis après, il y a eu une grosse tempête entre les Canaries et le Cap-Vert, où j'avais toujours donc cet ami Maxime Drénaud qui était à bord. Et là, ça a été un des moments les plus effrayants et merveilleux de toute cette histoire, parce que nous avons dû affronter une tempête qui n'était pas prévue sur les fichiers au moment du départ. Il faut savoir qu'à bord, j'ai pas de moyen de communication, il n'y a pas d'électronique, pas d'ordinateur, juste un compas, une sorte de boussole, et des cartes en papier. Et là, ce ne sont que les nuages qui nous ont annoncé la venue d'un front et qui a duré 9 jours et 9 nuits. Et là, c'est vrai qu'on a été dans une situation de survie. On n'aurait pas pu mieux naviguer tous les deux. On s'est relayés régulièrement pour garder toute la lucidité que la fatigue ne nous avait pas encore mangé. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance. Mais être deux là, ça a été merveilleux.
Tu dis, à propos de cette période entre les Canaries, Lanzarote et le Cap-Vert, la mort est à nos trousses.
Oui, clairement, quand il y a des déferlantes, déjà ça fait un bruit complètement fou. Elles viennent par vagues de 3, en tout cas sur ce jour-là. Et on avait une houle croisée et puis des vagues qui déferlaient venant de l'est. Et en fait, les deux sont croisées, ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir maîtriser la navigation avec des vagues qui nous attaquent de deux côtés. Et il y en a qui couchaient le bateau. Et c'était compliqué, oui. J'ai trouvé les secondes longues, puisqu'en effet, quelques vagues nous ont couchés. Le haut du mât était 1 mètre sous l'eau. Et là, il manquait juste un mauvais retour de vague ou une déferlante surprise qui aurait fini la série pour nous couler, je ne sais pas. Même si le bateau s'en est insubmersible. Voilà. Il y a eu de longues secondes, mais le bateau s'est souvent couché, mais il s'est toujours redressé. Finalement, on n'a rien cassé sur cette traversée qui a été folle. Mais oui, c'est sûr, quand on voit des vagues des murs d'eau qui se dressent derrière dans la nuit, on a fait une chute, je pense, de 8 mètres ou 9 mètres où l'avant du bateau a plongé, a piqué dans l'eau et avant de se coucher. C'est monstrueux quand on n'est qu'à 20 cm au-dessus de l'eau.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu dis, je n'avais que des cartes papier. Dans cette ère moderne, c'est un peu étonnant, d'autant plus que tu as réussi avec ces cartes papier à montrer que certaines n'étaient pas totalement justes et qu'il y avait des erreurs.
Alors, c'est sûr que c'est pas tout à fait à vivre avec son temps que de partir naviguer avec des cartes en papier. Mais j'avais déjà pas trop de moyens financiers, pas de moyens physiques, et du coup j'ai fait ce que j'avais. Et c'était assez pratique finalement, ça marche bien, donc on va pouvoir apprendre les étoiles et tout ça. Alors le sextant, c'était pas toujours possible, parce que pour ça il faut pouvoir descendre le soleil sur l'horizon. Et moi je voyais pas toujours l'horizon. L'horizon, c'était souvent une vague. Donc. Et sur le long de l'Espagne, en effet, j'étais à 5 ou 10 milles des côtes et parfois j'essayais de m'aider des repères que je voyais sur les cartes, comme la présence de phares ou de balises. Et puis parfois, en fait, un immeuble est construit devant un phare, sous prétexte que plus personne n'utilise trop la lumière du phare. Ou alors, il y avait, je me souviens, sur une carte, une erreur de graduation. Il y avait une minute de trop, en fait, entre... Il y a des repères, en fait, pour situer la longitude et la latitude. Et il y avait une erreur sur la carte. Et c'est vrai que j'ai pu, à Gibraltar, le signaler à des géographes. Ça les a amusés, parce qu'on m'a dit, mais plus personne n'utilise ces cartes en papier aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fait avec les petits moyens.
Je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur ton escale à Lanzarote, où tu vas aller récupérer un petit peu, découvrir cette île des Canaries, et puis faire une rencontre totalement improbable. Taratari vient du Bangladesh, et sur place, dans cette île, tu rencontres un Bangladais, et là, forcément, sa surprise, sa stupéfaction sont totales.
Ah oui, j'ai des rires dans la tête, je me réveille, je dormais dans le bateau, et j'entends des éclats de rire. Mais presque nerveux, et je sors du bateau, et là, c'était un jeune homme de 18 ans qui, en fait, travaille dans un restaurant indien de cette marina assez luxueuse, et qui ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Et c'était donc le pavillon du Bangladesh, qui est donc vert et avec frappé d'un cercle rouge, qui flottait en haut de mon patara, en haut du mât, parce qu'avec le coup de vent de Gibraltar, en étant couché, en fait, le pavillon est monté en haut du mât. Il était fier, lui, il n'a pas vu sa famille depuis toujours. Et là, j'ai eu des moments assez étonnants et rigolos, parce que lui ne comprenait pas ce que je faisais, moi, en tant que petite Française, avec un bateau de pêche si loin du Bangladesh. Et il me demandait comment j'allais ramener mon poisson frais là-bas. Et voilà. Et quand je lui ai expliqué que c'était pour mon plaisir, il a ri plus belle en me disant qu'il n'y avait aucun plaisir à naviguer là-dessus. Enfin, c'était très drôle. On est resté en contact. C'était bien sympathique.
Alors, au milieu de cette traversée, tu es obligé de rentrer en France, à l'hôpital de Garches, pour consulter les médecins par rapport à ta maladie.
Voilà, oui.
Et là, tu comprends que 80% de ton corps n'est pas en forme. Mmh. Et la question que tu poses au médecin, qui est légitime, mais qui est très crue, tu leur dis « Est-ce que je vais mourir ?» Et que te répondent-ils ? Sous-entendu, est-ce que je vais mourir de cette maladie ?
La réponse est claire, on m'a dit non. Jusque-là, je ne savais pas ce que j'avais. On a supposé peut-être une sclérose en plaques, ceci. Enfin, il y a toujours des incohérences et j'étais dans un flou médical énorme. Et là, quand visiblement, il n'y a plus de doute et il s'agit bien de ce syndrome, et je me suis dit, en fait, l'info dont j'ai besoin, c'est peut-être la seule importante, c'est est-ce qu'on meurt de ça ou pas. Et voilà, quand on m'a dit que non, je me suis dit, ok, je vais vivre avec et continuer de vivre avec, parce que c'est quelque chose que j'ai de naissance. C'est un peu la clé pour tout le reste, parce que si on vit en se bagarrant tout le temps, mais je pense qu'on perd beaucoup d'énergie, et j'ai décidé de faire une place à ce problème, de l'accueillir et puis de l'emmener faire un tour en mer.
Je voudrais que ceux qui t'écoutent, qui te découvrent pour certains, comprennent quelle est la relation que tu entretiens avec la mer. Et pour ça, je te cite. « Je parle de l'eau de mer comme de mon sang, je parle de l'océan comme de mon corps. » C'est très fort. Mmh. Ça veut dire que tu es en osmose totale avec cet océan Atlantique qui te tend les bras à ce moment-là.
C'est vraiment quelque chose de très fort et vraiment... très puissant, qui me dépasse complètement. Je pense qu'on ne peut pas expliquer, par exemple, un coup de foudre ou quelque chose. Et là, j'ai du mal à expliquer, moi, ce lien si fort avec l'océan. Et c'est quelque chose qui me fait vivre complètement. Et encore aujourd'hui, qui, dans les moments de doute, c'est finalement une solution réconfortante. Et pour moi, la mer, c'est la vie. Et c'est en mer que je sens moins mes douleurs, parce qu'à terre, il n'y a que la morphine qui peut soulager... mes douleurs, et je souffre, c'est de la douleur et de la fatigue chronique. J'ai pas de répit, en fait, c'est tout le temps là. Et j'ai pas envie d'être tout le temps sous morphine, donc c'est compliqué. Et l'océan m'apaise, et me soulage, et me fait sentir vivante. C'est assez fort. Et puis il y a toute la vie en mer, la venue des cétacés, les rencontres, les lumières, les étoiles, tout, le silence et les bruits, les couleurs, c'est vraiment la vie pour moi, c'est vraiment la vie.
Et je comprends donc beaucoup mieux pourquoi tu dis « aucune des tempêtes ne sera plus violente que ce que j'ai pu souffrir à terre ». Alors tu évoquais justement les rencontres, parce que c'est important en mer, quand tu te retrouves avec Maxime, parce qu'au départ tu devais partir avec Julie, une de tes amies, mais qui renonce. Sans doute, elle, happée par l'appréhension, et on peut la comprendre compte tenu de l'enjeu de cette traversée avec ce tout petit bateau. Mais là, raconte-nous ce qui se passe quand tu es face à cet orque, qui est l'un des animaux considérés comme les plus dangereux, qui fait entre 5 et 7 tonnes, et qui paraît monstrueux par rapport à ton petit taratari.
Alors, tout est calme et apaisé. Le soleil se couche et tout est particulier parce que c'est le moment où les animaux préparent leur repas du soir et sont en chasse. Et puis, dans la surface lisse de la mer, tout d'un coup surgit cette grosse tête majestueuse, noire et blanche, qui nous charge, qui charge le bateau, qui le jauge, qui passe d'un côté de l'autre plusieurs fois. Et c'est vrai que là, on se sent minuscule et c'est assez merveilleux parce que l'orque est une prédatrice, mais aussi une protectrice. C'est-à-dire que si elle avait voulu nous faire de nous un bout de son repas, elle l'aurait fait. Là, elle n'a pas compris ce que devait être ce petit ventre blanc de Tahatahi, mais elle ne nous a même pas effleuré. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ces animaux savent très bien ce qu'ils font. Donc je me dis qu'elle était là pour nous protéger plutôt, mais c'est vrai que c'est très impressionnant et c'est des moments uniques et qui, voilà, de connexion forte avec la nature.
Il y a donc, si je comprends bien, un mélange d'admiration, de stupéfaction et forcément aussi d'appréhension.
Oui, il y a tout ça. C'est vraiment le sentiment d'être vivant dans toute sa splendeur, parce qu'on a parfois peur. Les émotions sont en plus complètement exacerbées, enfin exagérées par la fatigue. Et c'est vrai qu'on peut trouver les choses 10 000 fois plus belles peut-être en mer, ou 10 000 fois plus dures, ou fatigantes, ou dures. Mais même la peur un sens, parce que déjà on sait que elle est là pour nous rappeler qu'on n'est pas immortel ou que des super-héros, mais on peut en faire une alliée et justement pour nous permettre d'agir et de donner le meilleur de nous-mêmes et d'être même respectueux, parce qu'en étant respectueux du bateau ou de la mer, ben on agit mieux et on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à terre quelque part en étant en sécurité. C'est après coup que la peur vient dire, ouais, c'était chaud.
Parmi les habitants de la mer qui fascinent, mais qui angoissent aussi, il y a évidemment les orques, les épolars, mais aussi les requins. Et avant le Cap-Vert, là, c'est une colonie de requins de 3-4 mètres de long qui entoure Tahiti. J'imagine que là encore, ça a dû être un moment d'émerveillement absolu, seul au monde,
Oui.
avec ces animaux.
Oui, en fait, au fil des milles et des jours, on entre dans une sorte d'autre dimension. On revient plutôt à la dimension primaire, au milieu du sauvage. Et finalement, ça fait pas vraiment peur de voir tous ces ailerons. J'étais devenue amie avec une dorade qui s'abritait sous le ventre de Tahatahi. Et c'est vrai qu'elle se cachait là. Et autour, il y avait les prédateurs. On voit un peu toute la chaîne qui est là, et c'est juste, on a l'impression d'un accompagnement, et c'est ça qui est fort. Mais je pense que la vision, c'est complètement favorable à l'émerveillement et permanent, mais je pense qu'aussi c'est une reconnexion absolue où on a l'impression d'être dans le vrai et dans notre milieu finalement.
Tu vas faire tienne une devise qui appartient à l'un de tes frères et qui dit « Le succès appartient à celui qui est à la fois sage et fou.
Oui.
» Qu'est-ce qui est sage en toi?
C'est une bonne question, Denis, mais je ne suis pas sûre de savoir. Je pense que j'ai beaucoup préparé ce projet. C'est-à-dire que sur les éléments de sécurité, j'étais équipée comme on l'est sur un Vendée Globe. J'ai l'impression que je connaissais mon bateau sur le bout des doigts et que du coup, tout ce que j'avais pu anticiper, en tout cas, identifier comme risque et ensuite réduire ces derniers, ça, je l'avais fait comme il faut. J'avais préparé ma navigation avec des personnes qui font partie des meilleurs marins français. Et je pense que je me suis préparée au mieux à tout ça, même si je savais pas trop dans quoi je me lançais.
Et ta part de folie, alors, c'est quoi?
Je dirais que c'est en ayant préparé tout ça d'y aller quand même. Je sais pas. C'est complètement contradictoire. J'en sais rien. Je sais pas quelle est ma folie. En fait, c'était une devise qu'utilisait mon frère et que je trouvais une phrase assez, une réponse fourre-tout à toutes les questions. On disait, mais t'es sûr, tu pars quand même. Mais ah bon, mais tu vas pas mourir là-bas. Je sais pas. On me posait plein de questions bizarres. Donc, j'avais envie de répondre ça et dire aux gens, voilà. Vous allez méditer cette phrase et on verra.
Alors, la traversée entre le Cap-Vert et la Martinique dure 25-26 jours. Essayons de nous imaginer à tes côtés sur ce bateau où on peut à peine s'asseoir, à peine s'allonger. Comment on réussit à manger? Comment on fait ses besoins dans un univers aussi petit?
Oui, et en plus en double.
Ben oui, en plus à deux. Enfin, c'était, s'il y a une promiscuité incroyable quand
à
même.
À deux, ouais. Oui, oui, et puis il fallait respecter une certaine intimité. En plus, on n'était pas en couple, donc c'est vraiment, il faut savoir respecter l'autre et ses besoins de voilà. Alors en fait, on était déjà tout le temps à la barre, ce qui fait qu'il y en avait un à la barre et l'autre à l'intérieur. Il n'y avait pas la place pour être deux sur le pont. Et on barrait, l'autre dormait, ce qui fait qu'on a fait que se croiser avec Maxime. On a un rythme qui établit une certaine routine de voilà de relève de barre, d'heure de sommeil et avant de le soir avant le coucher du soleil, j'essayais de trouver toujours quelque chose à fêter. Tous les jours on fêtait, alors avec un cachet de magnésium ou de vitamines dans un petit gobelet d'eau, on trinquait pour fêter quelque chose parce que c'était chouette. On chantait, on faisait des jeux, des trucs idiots, simples, mais faciles et qui étaient plutôt bienveillants. On n'a jamais eu un mot mauvais. Je pense que l'autre est un élan vital aussi. C'est-à-dire qu'on veut que tout se passe bien, peut-être d'abord pour l'autre. Moi, j'avais en plus ce sentiment de responsabilité puisque j'embarquais Maxime dans cette galère. J'avais un petit réchaud à gaz pour faire chauffer de l'eau et réhydrater, par exemple, des nouilles chinoises qui ne pèsent vraiment pas lourd. Donc, c'est super pratique à embarquer parce qu'il faut faire attention au poids. Mais on n'a pas eu de réchaud puisque le gaz est tombé à l'eau, la petite bonbonne, et le réchaud était rouillé. Donc, on a mangé froid. Et puis, on vit beaucoup à la barre. Donc, on n'a même pas forcément les repas en même temps. On mange à la barre, on se lave les dents à la barre. Pour les besoins, c'est un seau. Donc, on arrivait à... Ah, ça, c'est assez particulier. C'est enlever le ciré, la salopette de ciré, tout ça dans un petit bateau qui bouge beaucoup. C'est ça, le grand défi de cette aventure. Enfin, de beaucoup d'aventures. Sauf que Mike Horn, il n'en parle pas beaucoup de ce genre de choses parce que c'est un peu anti-héros. Mais c'est une routine de vie qui est dans l'inconfort, mais qui n'est rien par rapport, dans la balance, on va dire, par rapport au confort ou au bien-être qu'offre cette vie en mer.
À un moment, tu dis dans ton livre, « Mon bateau me fait penser à Bouddha ». Alors là, il faut que tu éclaires un petit peu ma lanterne, parce que je ne fais pas le rapprochement, même si Bouddha, le Bangladesh, d'accord, mais quel est le parallèle que tu fais entre Bouddha,
ouais,
et ton bateau, entre cette divinité bouddhiste, mm-hmm, et Taratari?
Cette vie à bord de Taratari, elle est obligatoirement dans une sobriété de tout, soit matériel, enfin il n'y a pas de place, on a la place pour rien, et on vit de manière ultra sobre, on dort, on se nourrit, voilà juste ce qu'il faut. Et j'ai fait un lien avec ça, alors j'étais peut-être déjà un peu perchée au bout de quelques jours en mer, mais moi il y avait ce lien vraiment sur le presque, oui, spirituel. En mer, et j'en venais à me dire que se retirer du monde pour être bien, c'est pas la solution, mais il faut arriver à trouver un juste milieu. Et c'est finalement une des leçons, un des apprentissages que j'ai trouvé ou vécu pendant ce voyage un peu particulier, où l'équilibre est dans ce juste milieu qu'il fallait définir et s'y tenir. Et quand je rentre après 5 ans sur ce bateau en France métropolitaine et que je vois qu'on est dans l'opulence de tout et le respect de pas grand-chose ni de pas grand monde, finalement, je trouve que c'est peut-être pas mal vrai aussi à terre, ce juste milieu nécessaire.
Est-ce que cet ascétisme t'a procuré beaucoup de bonheur? Et est-ce que surtout, il t'a permis d'oublier ou d'éloigner ta maladie et ses conséquences?
Alors, je peux pas trop m'en éloigner parce qu'elle est en moi et c'est une grande partie de moi. En revanche, j'ai réussi à vivre avec elle et à l'accepter, enfin à l'accueillir. Et grâce à Taratari et grâce à l'océan, j'ai pu vivre pleinement ce qui m'anime, ce que j'aime dans la vie, ce qui sont les grands espaces sauvages. Tout ça vraiment me fait sentir vraiment vivante. Je pense que c'est un tout, en fait, de sentir si petit dans l'océan. On se rend compte que tous les gadgets, toutes les choses sont des futilités qui sont un peu superflues, peut-être pas tant si nécessaires, et que ben, moi, j'ai l'impression que c'est bien au contraire une reconnexion avec soi-même, avec les éléments, et que ça manque cruellement dans nos sociétés, je trouve.
Alors on est au milieu de l'Atlantique, tu es sur ton petit bateau, tu affrontes les vagues, le vent, les cargos aussi, hein. Parce que certaines fois, je pense notamment à un moment où avec ta VHF, tu rentres en contact avec un cargo pour demander tout simplement si le cargo monstrueux a vu le petit bateau à voile. Et la réponse est non.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester très vigilant et attentif. Maintenant, je me souviens, au large du Maroc, il y a un cargo. Clairement, pour regarder sur l'horizon, je ne voyais pas. Parce que l'horizon, c'était à chaque fois que je montais en haut d'une vague, en haut de la houle, en fait, je voyais des lumières, c'était la nuit. Et finalement, à un moment, j'entends des bruits bizarres, je faisais le point à l'intérieur, je ressors, et là, j'étais sous le cargo, dégagé par le bulbe d'étrave. Et donc, oui, là, on l'a échappé belle, parce qu'on a été comme un débris supplémentaire qui était rejeté. C'était assez effrayant.
Oui. Je le disais en préambule pour te présenter, Capucine, tu souhaites rencontrer le cœur du monde. Et tu le rencontres, ce cœur du monde, au milieu de l'océan.
Il s'agit de cette reconnexion dont je parlais. C'est comme si quand on part voyager, alors je sais pas trop si on cherche des réponses ou autre, mais je crois qu'on... Finalement, ce qu'on trouve, c'est davantage, ce sont d'autres questions, des questions plus pertinentes. Puis les choses prennent un sens qu'on ne voyait peut-être pas. Des choses s'expliquent. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'ai compris que j'étais sur la bonne route sans regarder ma carte ou compas, juste en comprenant, en voyant le mât par rapport aux constellations, aux étoiles. Et ça, pendant plusieurs nuits, et on était sur la bonne route. Et je sais pas, tout d'un coup, cette de sentiment d'appartenance au monde, à un tout, donne des clés de compréhension qui vont être peut-être différentes pour chacun, mais c'est vraiment une reconnexion avec soi. Et pour moi, le cœur du monde, il est partout, il est en nous, et c'est juste dur de trouver quand tout court autour de nous, bah, le temps et le moment propice pour cette reconnexion qui fait un bien fou, parce qu'on accepte alors évidemment des joies, mais aussi des moments plus compliqués, des difficultés, des souffrances. Moi, je me sentais mal et un peu perdue, parce que voilà, dans la vie, on ne se sent pas bien parfois, alors qu'on a tout pour être heureux et on ne va pas bien. Eh bien, là, en fait, tout s'apaise. C'est un apaisement merveilleux. Et moi, c'est en mer que j'ai trouvé ça. Mais je pense qu'on peut le trouver un peu partout, seulement il faut s'écouter.
Capucine, j'ai une question forcément délicate. Est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre un aussi grand sentiment de plénitude si tu avais finalement tracé ta première voie, à savoir disputer la Mini Transat, une compétition avec un bateau beaucoup plus compétitif par rapport à ce que tu as fait là, contrainte au départ par ta santé? J'ai l'impression que ça t'a apporté plus de réponses qu'une course.
Oui. Oui, j'en suis persuadée. Je crois que finalement, ce projet, il me ressemble et me correspond bien mieux. Juste quelques jours après mon passage à l'hôpital de Garches, mon ami Sidney Gavini m'a emmené naviguer sur son mode 70 qui venait de mettre à l'eau. C'est vraiment un trimaran ultra rapide et performant. Et là, à la barre de cette grande machine, on allait à toute vitesse et c'était grisant. Et en même temps, j'ai bien compris là que même si ça m'apportait un plaisir immense, j'étais loin de ce qui me ressemblait, ce qui me convenait. Je crois que j'ai absolument aucun regret et j'ai l'impression que c'est aussi grâce à ma maladie, à mon syndrome, que j'ai la chance de vivre tout ça et tous ces moments si forts avec ce petit bateau. Et oui, je crois que c'est une chance et c'est peut-être une vertu de la maladie, du deuil, de tout ce qui nous fait souffrir, de pouvoir faire la différence entre la contrariété et le problème. Et quand le problème, il est de mourir, le reste, ça devient un peu plus facile à vivre quand on se dit que c'est pas grave et que c'est une contrariété et on va plus vite à l'essentiel. En fait, moi, ce petit bateau m'a permis d'aller beaucoup plus vite vers l'essentiel qui était de, voilà, cette connexion avec la nature qui m'apporte un bien-être, qui me reconnecte à moi-même, qui donne du sens à ce que j'aime, à ce que je suis. Et en tout cas, je me suis jamais sentie aussi heureuse que en mer avec ce petit bateau-là. Et ce bien-être, je l'ai ressenti sur aucun autre bateau de course. Et non, il n'y a rien pour moi qui égale à Taratari.
Capucine, qu'on puisse tous réussir à embrasser une philosophie comme celle-ci pour être plus heureux et pour se concentrer, se recentrer sur l'essentiel. Je voudrais que tu évoques avec nous la fin de cette belle aventure, parce que certes, il y a eu l'arrivée en Martinique, mais ensuite, tu es resté 2 ans à naviguer aux Caraïbes, entre les îles, avec ce petit bateau. Tu avais besoin de continuer l'expérience?
Oui, parce que pour moi, il n'y avait aucun objectif géographique, aucun but de durée aussi. Enfin, je ne m'étais pas dit j'arrête après la traversée de l'Atlantique. En fait, l'expérience, l'aventure, s'est peu à peu transformée en mode de vie. Et pour moi, il n'y avait vraiment plus d'échéance de fin, en fait. Et puis, j'étais vraiment arrivée dans un bien-être serein qui n'était pas dans une euphorie complètement folle. C'était vraiment quelque chose de très tranquille, très posé. Et ce bien-être-là m'a permis de faire une belle rencontre. J'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes enfants parce que je suis devenue maman. Et voilà, donc j'ai rencontré Jérôme et on a navigué ensemble parce que je voulais partager avec lui ce que c'était que cette grande partie de ma vie qui s'appelait Taratari. Et puis on a fait une pause parce que j'étais enceinte de 7 mois, j'ai navigué enceinte sur ce bateau. J'ai hâte d'y retourner, mais la crise sanitaire fait que ça complique un peu la donne. Mais oui, non, c'était une belle petite vie dans les îles. Ouais.
Taratari restera, quoi qu'il arrive, à vie ton amant, si je comprends bien.
Oui, j'ai du mal à savoir quelle place il a. Et il fait partie de la famille, ça, c'est sûr, oui. J'ai un attachement particulier.
C'était il y a quelques années, cette traversée, ces 2 ans passés aux Caraïbes. Il y a eu la rencontre avec Jérôme, ses 2 enfants, cette vie qui évolue. Mm-hmm. Permets-moi cette question un peu indiscrète. Comment vas-tu? Comment ta santé va aujourd'hui?
Alors, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a des hauts et des bas. Il y a des crises plus ou moins fortes de douleur, mais j'ai mal tous les jours. Je peux encore soulager que par la morphine. J'ai vu un de mes médecins en Bretagne qui m'a dit qu'il fallait que je reparte en mer, que ça irait mieux. Il me l'a dit en riant, mais je sais qu'il est un peu sérieux aussi. Je vis toujours avec ce problème et je reste focalisée sur ce qui est problème ou contrariété pour être le plus sereine et apaisée possible. Mais je vis avec, toujours.
Alors, dans ce magnifique ouvrage aux éditions Artaud que tu signes, « Taratari, mes ailes, ma liberté », je vous invite vraiment à lire ce livre parce que vous rentrerez dans les détails de cette traversée et vous serez avec elle, en osmose avec Capucine, jusqu'à la dernière page. Et sur cette dernière page, il y a une ultime phrase qui dit « Taratari, bientôt nous repartirons ».
Oui.
Ça pourrait presque être le début d'un poème. Alors, bientôt, c'est quand? Et nous repartirons où et avec qui?
Alors, j'ai donc eu 2 enfants, j'ai écrit un livre, c'est presque comme un 3e enfant, vu le temps et l'énergie que ça prend. Mais je pensais pouvoir repartir, mais c'est sûr que la crise sanitaire complique la donne, puisque là, l'idée, c'était de rallier Miami et de remonter à New York par les canaux. Les frontières sont fermées, puis c'est pas vraiment le moment pour se lancer dans des dans des grands périples. Et puis avec un bateau qui m'attendrait, qui serait une sorte de base arrière, de bateau maison, sur laquelle les enfants, Jérôme, pourraient être là et pour qu'on transforme ça en aventure familiale. Peut-être qu'après on passera sur un support, un bateau plus familial, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'écrire encore quelques histoires avec ce bateau parce que j'ai arrêté enceinte de ma fille. J'ai pas envie qu'un jour elle me dise « mais tu as arrêté parce que je suis née » ou moi j'ai pas envie de me dire en tant que femme que tout a changé parce que je suis devenue maman.
Capucine, j'ai une dernière question à te poser. Ça fait écho à un entretien que j'ai réalisé avec Philippe Croison, qui a perdu ses bras et ses jambes lors d'une électrocution et qui m'a dit « sans mes bras, sans mes jambes, aujourd'hui je suis beaucoup plus heureux que je ne l'étais lorsque j'étais valide ». J'ai envie de te poser la même question. Est-ce que sans la maladie, tu serais aujourd'hui aussi heureuse, aussi épanouie, aussi accomplie que tu l'es ?
Oui, je ne me pose pas trop cette question parce que je crois que c'est déjà un sacré enjeu d'arriver à se sentir bien avec sa vie, avec ce qu'on est. Et là, je leur dis, je pense qu'une des vertus de la maladie, c'est d'aller plus vite à l'essentiel et peut-être alors que oui, je suis plus heureuse grâce à ça, qui pour moi, ces soucis de santé-là ne me définissent pas, ils font partie de moi, comme le fait que on soit blond ou brun ou gaucher ou droitier, moi j'ai ça, mais je vis avec et je pense que si on est en accord avec tout ce qui fait partie de nous, alors on peut trouver le bien-être et peut-être, oui, le bonheur.
Capucine, tu es un exemple de résilience, une femme qui surfe les vagues de la vie, même les plus dangereuses, pour repousser ses limites, défier, dompter cette maladie qui abîme ton corps mais transcende ton esprit et ta volonté, on vient de l'entendre. Un immense merci d'avoir partagé ton expérience si riche avec moi pour Vie d'aventure.
Merci beaucoup, Denis. Merci.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors, si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.